Vous êtes sur RTL.
Le tueur de l'Oise a été arrêté. C'est un gendarme de Chantilly. Il a 23 ans. Il s'appelle Alain Lamarre. Il a tout avoué. Son unité était précisément chargée de rechercher le tueur.
Bonsoir. La prochaine fois, je viserai le cœur. Ces mots, cet avertissement écrit à l'été 1978, sont ceux d'un homme qui commençait alors à semer la terreur dans le département de l'Oise et qui va tenir sa promesse en attaquant des jeunes femmes avec un pistolet automatique, les blessant grièvement, tuant l'une d'elles. Il y aura aussi des vols, des voitures piégées, l'arsenal idéal pour semer le chaos, installer la confusion et la peur dans tout un département, même si celui qu'on va surnommer le tueur de l'Oise n'a a priori rien d'un desperado ou d'un maniaque. Je dis a priori parce que le visage et le nom qui vont apparaître derrière ces crimes et délits sont ceux d'un gendarme, celui du jeune Alain Lamarre, élément zélé, prometteur, parfaitement noté, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de Chantilly dans l'Oise. Il participait ainsi aux enquêtes sur ses propres méfaits, échappant aux surveillances et aux barrages avant d'être démasqué et arrêté après 11 mois de traque. C'est cette histoire stupéfiante que je vais vous raconter ce soir dans l'heure du crime. Elle figure parmi bien d'autres dans un livre signé Alain Hamon, qui a longtemps tenu la rubrique police à RTL, qui a enquêté à l'époque sur le tueur de l'Oise. Livre qui s'intitule joliment « Bonjour, on vient pour l'affaire » aux éditions JPO. 50 ans de faits divers, Alain Hamon et ce soir notre invité fil rouge. Le tueur de l'Oise, sous le képi du gendarme Lamarre, un meurtrier. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire du tueur de l'Oise, Alain Lamarre, un gendarme qui enquêtait sur ses propres méfaits qui iront jusqu'au meurtre, dérive criminelle qui commence par un simple vol de voiture, mais déjà une mise en scène. Ce mercredi 31 mai 1978, vers 1h30 du matin, une patrouille de gendarmes s'affaire aux abords du carrefour des Ripailles, entre Saint-Maximin et Chantilly, dans l'Oise. Ils examinent une Peugeot 504 abandonnée qui porte des impacts de balles. Deux dans le pare-brise, trois autres dans le coffre et dans la calandre. À l'intérieur du véhicule, les militaires trouvent deux douilles de pistolet automatique, un mouchoir taché de sang, des documents, une seringue contenant un sédatif et même un plan annoté, sans doute destiné à la préparation d'un hold-up. La voiture était particulièrement recherchée car elle a été volée à la femme d'un gendarme. La Peugeot a dû servir à un mauvais coup, tout cela sans le grand banditisme. C'est donc la police judiciaire de Creil qui va se charger du dossier, au détriment du peloton de surveillance et d'intervention de Chantilly, le PSIG, et de l'un de ses hommes, le gendarme Alain Lamarre, 22 ans. C'est lui qui a volé exprès le véhicule. Il espérait pouvoir briller, participer à une vraie enquête. C'est raté. Partie remise. Deux mois après l'affaire de la 504, le dimanche 23 juillet, peu après minuit, Karine Gros-Piron, 19 ans, rentre chez elle à pied après une séance de cinéma. Personne à cette heure-ci dans les rues de Pont-Sainte-Maxence. Une Renault 12 remonte la même rue derrière elle, puis se place à sa hauteur. La portière passager s'ouvre. Trois coups de feu claquent dans la nuit. Une balle, calibre 9 mm, touche la jeune femme au mollet. Elle est hospitalisée. Karine décrit vaguement le visage jeune de son agresseur et sa voiture peut-être l'œuvre d'un détraqué sexuel. La gendarmerie est chargée du dossier. Une dizaine de jours plus tard, la Renault 12 rouge grenat ressurgit. Elle attire l'attention d'un gardien d'immeuble dans une rue proche de l'hôtel de police. Jean-Jacques Verbeck se demande qui a pu se garer ainsi à contresens. Il essaie d'ouvrir une portière, une explosion suivi d'une boule de flamme. La voiture s'embrase, le gardien est brûlé au visage et au bras. Pas un accident. La voiture, volée à un agriculteur, était piégée. Une bombe artisanale composée de désherbants agricoles reliés au plafonnier en guise de mise à feu. Bonsoir Alain Hamon.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancien reporter au service police-justice de RTL, aujourd'hui patron de l'agence Credo, et vous venez de publier, il y a quelques jours, « Bonjour, on vient pour l'affaire, mais 50 ans de faits divers » dans la collection Jacques Pradel, que l'on salue, Jacques qui a tenu la boutique de cette heure du crime pendant une dizaine d'années. Alors, c'est le premier opus de cette belle collection chez JPO Éditions. On va évidemment parler très longuement de l'affaire Lamar, et vous êtes venu pour la... pour cette affaire ce soir. Un mot tout de même, expliquez-nous le titre du livre qui est assez souriant presque. Bonjour, on vient pour l'affaire.
Alors écoutez, je vais vous l'expliquer très très facilement et très rapidement. Un confrère de Corse Matin, puisque je vis en Corse maintenant, prenait rendez-vous très récemment avec moi pour venir un petit peu voir qui j'étais. Un très très bon confrère d'ailleurs, Noël Cruslin, fait diversier au bout des ongles. Et au téléphone, il se souvenait plus bien de l'entier du titre. Alors, il me dit, rappelez-moi quel est le titre. Alors, j'ai dit, eh bien, c'est « Bonjour, on vient pour l'affaire ». Et là, il a éclaté de rire au téléphone, il m'a dit « Ah, ça c'est ce que nous on dit quand on arrive avant les gendarmes ».
C'est ça, voilà. C'est ça. Bon. C'est la version « Faites entrer l'accusé
ouais. »
policière et gendarmesque.
Oui, hein, c'est un clin d'œil à mes confrères que j'ai connus tout jeune quand j'étais dans l'Oise, puisque... Je suis le régional de l'étape dans cette histoire.
En
1969, ce sont mes confrères de détective qui m'ont appris cette phrase, qui faisait ouvrir bien des portes de témoins. Bonjour, on vient pour l'affaire. Alors naturellement, c'est vrai, il y a une petite ambiguïté. Ouais. Petite ambiguïté, policier, pas policier, voilà.
Bon. Dans tous les cas, c'est un joli titre. Alors on en vient à l'affaire Lamar, avec ces trois méfaits que je viens de brièvement raconter, qui sont évidemment, dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier à cette affaire Lamar. Trois méfaits très difficiles à relier à l'époque.
Complètement, et alors d'autant plus difficile à relier que vous l'avez souligné dès le début de votre récit, la toute première histoire, c'est la police judiciaire de Creil qui la prend en main, sauf que après, d'autres histoires vont être prises aussi par des gendarmes, mais pas forcément des gendarmes de Chantilly, des gendarmes d'ailleurs, en plus il a débordé sur des départements avoisinants, la voiture dont
la
vous parliez,
Somme, ouais.
Voilà, elle a été volée à une femme de gendarme, mais dans la Somme. Donc tout ça, pardonnez-moi l'expression, c'est un bordel monstre.
Et puis à l'époque, Alain Hamon, on ne communique pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, hein, entre police, gendarmerie et même entre groupes différents, on ne se parle pas.
Non seulement on ne se parle pas entre la police judiciaire et la gendarmerie. Ça, c'est alors là la guerre des polices à cette époque-là, elle était pleine et entière. Bon, on communique pas forcément entre le service de police. Et on communique pas forcément entre la gendarmerie de Compiègne, la gendarmerie de Chantilly, la gendarmerie de Clermont-de-l'Oise, la gendarmerie de Senlis. On communique pas entre soi. Et mieux, souvent, il y a des magistrats différents, de tribunaux différents qui sont saisis, et eux ne communiquent pas non plus entre eux.
Et tout de même, il y a deux actions, la première action, à la fois la voiture abandonnée, on peut s'en passer, mais les deux autres actions, elles sont beaucoup plus graves. Une femme qui est attaquée, ce gardien d'immeuble qui est grièvement brûlé, on peut quand même s'interroger.
Moi je peux dire aujourd'hui qu'il les a ratés. Il les a ratés.
Il voulait déjà, Alain Hamon, tuer à ce moment-là.
Ah mais complètement, Lamar, depuis le début. Vous savez, Lamar, il avait aussi en mémoire la toute première affaire dont je me suis occupé, c'est-à-dire le tueur de Nogent-sur-Oise, dit le tueur de l'ombre, Marcel Barbeau,
qui
a tué 8 femmes et un homme en 10 ans, et Lamar, ça lui trottait dans la tête.
Ça lui trotte dans la tête, et à l'époque, effectivement, l'affaire Barbeau, ça a été un traumatisme dans ce département de l'Oise, beaucoup plus d'ailleurs que l'affaire Lamar à ce moment-là. Mmh. Il va s'inspirer de cette affaire. En quelques mots, parce qu'on va effectivement faire le portrait de ce Alain Lamar tout au long de l'émission, mais en quelques mots, qui est-il ? Jeune gendarme, c'est ça ?
Tout jeune gendarme brillant d'ailleurs. Il commence dans une brigade territoriale à Clermont-de-l'Oise, et puis très rapidement, il veut de l'action, donc il demande... Bon alors lui, il vise le GIGN, hein, carrément.
C'est Rambo.
Et puis bon, il se contente de ce qu'on lui donne, ce qui est déjà quand même pas mal pour un tout jeune gendarme.
Il a 22 ans.
Il se retrouve dans un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, en fait, c'est l'équivalent des BAC, des brigades anticriminalité pour la police nationale. Voilà. Et donc, bon, bah là, il se dit, tiens, je vais peut-être quand même pouvoir faire de la police. Il s'aperçoit, vous l'avez dit dans votre récit, que bah non, il fera peut-être pas beaucoup de police, même dans un peloton de surveillance et d'intervention, un PSIG.
Alain Lamarre reste dans l'ombre, des faits inquiétants qui n'ont a priori pas de lien entre eux. Pas de psychose pour le moment, mais des interrogations. Et bientôt, une lettre qui va donner le la à une campagne de terreur. Alain Lamarre, le tueur de l'Oise, la dérive criminelle d'un gendarme parfait. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Alain Lamarre, le tueur de l'Oise, gendarme et meurtrier. Été 1978, Lamarre est bien décidé à semer la terreur dans tout le département. On ne peut pas dire qu'il n'aura pas prévenu les autorités. Le jeudi 10 août 1978, le commissaire de Creil découvre dans son courrier une lettre anonyme signée d'un point d'interrogation. Celui qui écrit évoque la Renault 12 rouge qui l'a piégé. Il donne le nom du gardien blessé. Il parle aussi de la jeune femme agressée à Pont-Sainte-Maxence, Karine. Le discours est pour le moins glaçant. Je cite « Une fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Le correspondant anonyme est formel. « Je suis un tueur et je vais tuer », écrit-il. Il note ensuite « Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur et non plus les jambes. » La lettre est un avertissement en bonne et due forme. Il est évident que le rédacteur est bien l'auteur des faits qu'il revendique. La lettre est prise au sérieux par la PJ. Le commissaire la présente à l'inspecteur Daniel Neveu, sans doute le premier à tiquer en examinant ce courrier. Tout est trop propre, trop net. L'écriture est impeccable et ne souffre d'aucune faute d'orthographe. Neveu est convaincu que ces mots sont ceux d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme. Il a cette intuition en relisant la phrase « Renault 12 rouge immatriculé 1303 » QG02, l'ordre hexadémo qui figure dans un PV de gendarmerie ou dans une main courante déposée dans un commissariat. Les soupçons et rumeurs vont alors commencer à courir. Il va falloir attendre 3 mois pour que celui qui se présente comme un tueur se manifeste à nouveau. Le 16 novembre, début de soirée, dans la localité de Fitzjam, Brigitte Corrette, une secrétaire de mairie, est renversée à vélo à 2 reprises par une Peugeot 504 cabriolet. La cycliste hurle, son agresseur prend la fuite. 2 jours plus tard, la voiture est repérée par une patrouille du PSIG de Chantilly, retrouvée, drôle de hasard, par le gendarme Alain Lamarre, qui l'a vu sur un terre-plein de la gare d'Aury-la-Ville. Lamarre laisse un jeune collègue auxiliaire ouvrir la portière. Explosion et boule de feu. Le militaire est brûlé au visage et aux mains. Alain Hamon, vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. Et je rappelle votre ouvrage qui vient de sortir, « Bonjour, on vient pour l'affaire », où vous racontez cette histoire du gendarme Lamarre. Alors même si à cette époque, on ne sait pas encore que c'est lui qu'il agit, on sent bien qu'il monte en puissance. On s'arrête sur la lettre un instant. Il a envie là d'avoir un petit peu son heure de gloire, ce mystérieux rédacteur.
C'est clair, il n'a pas pu s'en empêcher. Il n'a pas pu s'en empêcher, comme il ne peut pas s'empêcher de semer, comme le petit pousset, des cailloux pour attirer l'attention de ses collègues gendarmes et même des policiers de la PJ de Creil. Et là, tout à l'heure, comme quoi il y a toujours des exceptions à une règle, eh bien, c'est le commissaire du commissariat de Creil qui reçoit la lettre. Oui. Et tout de suite, il traverse la cour, parce que la police judiciaire est dans un espèce d'Algeco au fond de la cour. Il traverse la cour et il la donne à Daniel Neveu, l'un des responsables de la PJ de Creil, en lui disant « Là, il y a quelque chose. »
Il y a un truc qui ne va pas et ça fait tilt effectivement dans la tête de Daniel Neveu. Alors, question simple, on l'a déjà un petit peu évoqué d'ailleurs dans la première partie de l'heure du crime, mais pourquoi la police ne donne pas cette lettre à la gendarmerie ?
Ah bah non,
Ah bah, il est
pas question.
Ah bah, il est pas question de donner quelque
de partager.
Chose. Il est, d'abord, un, il est pas question de partager. Deux, très rapidement quand même, disons-le tout net, Neveu a penché plus pour la possibilité d'un gendarme que d'un policier. Donc, c'était peut-être aussi donner ouais, de quoi moudre aux gendarmes qui faisaient ça. Quoi,
dans la guerre police-gendarmerie, ça servait aussi d'argument pour effectivement pouvoir peut-être un peu les mettre en difficulté. Alors, il y a eu cette deuxième voiture piégée. Je l'ai dit, là, encore une nouvelle fois, on sent bien que cette espèce de personnage a envie de tuer. Et puis aussi, là, je ne l'ai pas raconté, mais vous le racontez, vous, dans votre excellent ouvrage, il y a le braquage d'un bureau de poste. Racontez-nous.
Ouais. Eh ben, écoutez, c'est pas difficile. Alors là pour le coup, c'est pas pour jouer au braqueur ni rien du tout. C'est que il a eu beaucoup de frais. Il a eu beaucoup de frais, Alain Lamarre, dans toutes ses péripéties. Et donc, il a commencé par quand il volait des voitures, il a commencé par récupérer parfois des chéquiers. Il a commencé par faire des chèques avec des chéquiers volés. Tout simplement pour récupérer de l'argent. Et parce que, alors, en plus, il menait assez grand train, quand même. Hein. Alain Lamarre,
oh,
il allait au
vie.
Resto, tout,
triple voilà, vie,
voilà, on l'évoquera peut-être un peu plus tard, mais il menait quand même assez grand train. Donc, il avait besoin de pas mal d'argent. Bon, c'est pas sa solde de gendarme qui pouvait aller jusqu'au bout de ses envies. Et puis, un jour, il a eu besoin de sous. Donc, il est allé braquer, en effet, un bureau de poste. Et là, on ne peut pas dire qu'il ait fait des étincelles, parce que la postière, quand même, a donné un signalement qui n'était pas si mauvais que ça.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que ça, vous le racontez dans votre ouvrage, et c'est assez cocasse.
Eh bien, elle décrit... Alors, d'abord, Elle a l'impression, elle fait sa déposition aux policiers qui viennent la voir et aux gendarmes d'ailleurs qui passent derrière les flics pour recueillir
au cas où.
Voilà. Il lui semble qu'elle a oublié quelque chose. Il lui semble qu'elle a oublié quelque chose. Alors elle cherche et puis bon, les policiers s'en vont et elle les rattrape sur le trottoir et dit ça y est, j'ai trouvé. Ce qui m'a marqué le plus dans ce personnage, ses oreilles. Il a des grandes oreilles. Et c'est vrai que plus tard, on s'apercevra, et sur toutes les photos d'ailleurs d'Alain Lamarre, avec képi, sans képi, en uniforme, en civil, il a en effet des oreilles assez protubérantes.
Des grandes oreilles. Alors il va laisser, il laisse des traces, hein, d'ailleurs, on ne sait pas que c'est Lamarre évidemment à l'époque, mais il laisse des traces, ce gendarme tueur, en tout cas, qui a envie de tuer. Il y a notamment des empreintes. Oui. Qui vont être croisés d'ailleurs. On fait le lien entre quelques dossiers déjà.
Tout à fait, absolument. Ouais. À partir de ce moment, à partir de la poste dont vous venez de parler, il y a déjà des croisements qui ont été faits et ça remonte. Ils arrivent avec les empreintes, ils arrivent à remonter à la toute première histoire que vous avez racontée au début de votre récit, c'est-à-dire la voiture volée à une femme de gendarme dans la Somme, retrouvée au carrefour des Ripailles à Chantilly. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien pour faire des comparaisons à l'époque avec les empreintes, ou plutôt les traces papillaires, comme on dit dans la police, qui avaient été découvertes dans la 504. Et là, il se trouve qu'au fur et à mesure où d'autres faits se déroulent, eh bien, on s'aperçoit que à plusieurs reprises, ce sont les mêmes empreintes qui reviennent. Mmh. Voilà. Et puis aussi la balistique. Ouais. C'est toujours le même pistolet automatique, le 9 mm.
C'est ça, le 9 mm, hein, voilà. Qui est toujours utilisé, qui est une arme assez courante. Hein.
Ah bah, qui est une arme assez courante, mais qui est aussi le calibre utilisé chez les gendarmes. Chez les gendarmes et dans la police, uniquement dans les compagnies de républicaines de sécurité. Les gens de la police judiciaire ont plutôt du 38 spécial, des choses comme ça. Et là, du 9 mm. Et donc, bon, ça, Neveu, à la PJ de Creil, il continue à percuter en disant, bon, voilà, c'est quelqu'un de chez nous.
Alors, c'est un petit peu Monsieur Alain et Docteur Lamarre, hein, que vous nous racontez, parce qu'il y a, là, il y a double vie, ou presque triple vie. Ouais. Est-ce que ses collègues à Chantilly, à cette époque du dossier, à ce stade du dossier, ils ne se doutent de rien? Il n'y a pas de...
Alors, ses collègues à Chantilly, non. L'adjudant-chef responsable du PSIG, non plus. En revanche, quand même, il y a des questions qui se posent, et puis les soupçons de la police judiciaire reviennent quand même aux oreilles de la gendarmerie et des officiers de gendarmerie. Et il y a un type qui a une énorme responsabilité dans cette histoire, c'est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Senlis, dont dépend le PSIG de Chantilly, parce que lui, très rapidement, il a des gens autour de lui qui lui disent « faudrait faire telle vérification, faudrait... chez nous ».
On va d'ailleurs en reparler, Alain, voilà. de cette responsabilité.
Et il ne les fait pas.
On va en reparler, juste un petit mot encore. Il prend pas vraiment de précautions. Lamar.
Non.
Il laisse ses empreintes, il laisse des traces.
Ah mais non, mais on peut même dire qu'éventuellement, il a fait quand même pas mal de choses pour se faire prendre, à un moment donné.
Police et gendarmerie mènent donc leurs propres investigations sans que celles-ci ne se croisent, sans qu'on imagine qu'un même homme soit derrière des faits aussi différents les uns des autres. Le pire est à venir. L'affaire Alain Lamar, quand un gendarme se métamorphose en tueur. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
My Feet, Kimber Rose, c'est le premier extrait de son second album qui va paraître début 2021 et c'est ce soir sur RTL dans l'heure du crime.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, heure du crime consacrée au dossier Alain Lamar, fin des années 70. Le tueur de l'Oise qui cachait un gendarme. Cet homme a averti qu'il était un meurtrier, qu'il allait frapper. Menace mise à exécution le vendredi 1er décembre 1978. Ce jour-là, vers 13h, route des Aigles, derrière l'hippodrome de Chantilly, un automobiliste aperçoit le corps d'une jeune femme sur le bas-côté. Yolande Razewski, 19 ans, serveuse, elle a été touchée juste sous la poitrine par une balle de 9 mm. La jeune femme est en train de mourir, mais elle a le temps de livrer son témoignage. Elle indique qu'elle faisait du stop à Pont-Sainte-Maxence. Elle est montée à bord d'une Citroën GS bleue. Un homme jeune était au volant. Il est devenu étrange, agressif. Elle a eu peur et a voulu ouvrir la portière. Il l'a frappée avec la crosse de son pistolet, puis il lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Yolande Razewski décède de sa blessure aux alentours de 17h. Cette fois, le meurtrier n'a pas raté sa cible. Il est devenu le tueur de l'Oise. Une dizaine de jours plus tard, les responsables de la gendarmerie de l'Oise se réunissent pour faire le point sur cet individu qui sème le désordre et l'inquiétude dans tout le département. Il s'agit de le mettre hors d'état de nuire au plus vite et de rassurer la population. 4 mois après, la police transmet enfin la fameuse lettre d'avertissement aux gendarmes. Le commandant de la compagnie de Clermont, Jean Pinault, la parcourt, même réflexion que l'inspecteur de police Neveu. Il est convaincu que c'est un gendarme qui a rédigé ce texte. Avant même de lire cette lettre, Jean Pinault avait déjà des doutes. Il s'était aperçu que le tueur de l'Oise déjouait trop rapidement les barrages, semblait au courant même des enquêtes. Jean Pinault demande donc que les emplois du temps des personnels soient vérifiés, que des comparatifs d'empreintes digitales soient effectués. Seul le commandant de la compagnie de Chantilly se refuse à l'exercice. Il estime qu'aucun gendarme ne peut être l'auteur de tels crimes. Une telle accusation risque de salir la gendarmerie tout entière. Il n'y a pas, selon lui, de loup dans la bergerie. Pas de vérification donc à Chantilly, où exerce justement le gendarme Alain Lamar, qui glisse donc entre les mailles du filet. Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'heure du crime, j'ai envie de dire, mais quelle bévue !
Ah, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est pire qu'une bévue, c'est un ratage, c'est un ratage que je dirais presque criminel, parce que Lamar aurait pu être interpellé très rapidement après ça, et il n'aurait pas frappé à nouveau. Le commandant de compagnie de Senlis porte une lourde responsabilité. Il a été muté à la suite de l'affaire, quand l'affaire a été terminée. Mais enfin bon, une mutation, de toute façon, ça voyage, hein, commandant de gendarmerie dans sa carrière. Mais Jean Pinault, vous l'avez dit, c'est rigolo d'ailleurs, parce que à la PJ de Creil, Daniel Neveu était surnommé Maigret, et à la compagnie de Clermont, Jean Pinault était surnommé Colombo. Donc,
quelle famille.
Voilà. Donc, à eux deux, ils ont fait la liaison, et c'est vrai que Pinault, tout de suite, lui, peut-être même d'ailleurs, à la limite, encore, il habille encore plus l'accent sur le fait que ça devait être un des leurs, c'est-à-dire un gendarme plutôt qu'un policier.
Un gendarme plutôt qu'un policier.
Ouais. Neveu le pensait, mais enfin bon, ouais. Il faisait toujours attention quand même.
Bien sûr.
Voilà,
ouais.
Bon. Pinault, lui, en tout cas, a dit tout de suite, c'est un gendarme.
Dans tous les cas de figure, Alain Hamon, la mèche est allumée. Revenons, si vous voulez bien, sur quand même l'acte majeur de cette trajectoire criminelle, c'est la mort de Yolande Razewski, cette jeune femme, 19 ans, abattue près de l'hippodrome de Chantilly. Alors là, vous couvrez l'affaire à l'époque. Je suppose que dans ce département de l'Oise, que vous connaissez parfaitement, vous en êtes, je crois, natif, c'est la panique, l'inquiétude, l'angoisse.
Pas tout à fait natif, mais natif professionnellement. Parce que s'il n'y avait pas eu le département de l'Oise, à mon avis, je ne serais peut-être pas là ce soir.
Vous avez commencé là votre carrière.
Exactement, tout à fait.
Alors, dites-nous, Alain, alors on s'inquiète vraiment là, on est passé à un autre stade.
C'est-à-dire que la psychose commence à s'installer, toujours pour une raison que nous avons soulevée il y a quelques minutes. C'est-à-dire que, du coup, les gens, et plus particulièrement les femmes et les jeunes femmes, font un retour en arrière et repensent à l'affaire Barbeau. Mmh. En se disant, patatrac, voilà un nouveau tueur. À l'époque de l'affaire Barbeau, quand même, les brunes, qui étaient la cible favorite de Marcel Barbeau, se faisaient teindre en blonde.
Ah oui.
Pour échapper aux tueurs. Mmh. Elles en étaient là, les pauvres.
Mmh.
Bon. Et là, bon, voilà un type dont on ne sait pas qui ça peut être et qui frappe comme ça un peu partout sur le département. La police n'y arrive pas, les gendarmes n'y arrivent pas. Donc là, la psychose commence tout doucement, en effet, à s'installer dans le département de l'Oise. Ce qui est quand même la moindre des choses. Parce que là, il a tué.
Oui, c'est ça.
Là, il a tué. Et
il a tenu promesse, finalement.
Mais oui, bien sûr. Hein, oui. Déjà, il s'est tenu la promesse à lui, et puis la promesse qu'il avait faite dans la lettre.
Et donc là, on peut le prendre au sérieux, désormais. En tout cas, je pense que dans sa tête, il doit penser à ça, quoi.
Ah, mais j'en suis persuadé. De toute façon, c'était l'aboutissement de ce qu'il avait toujours voulu faire. Je répète, moi, j'ai toujours pensé que les autres, ils les avaient ratés.
C'est ce que vous dites, effectivement.
Voilà. Et là, il n'a pas raté la petite Yolande. Et donc, il est abouti. Sauf que ça lui suffit pas. Et il va essayer d'en faire d'autres.
Et il va essayer d'en faire d'autres. Alors, dans votre livre, vous indiquez qu'à cette époque, lorsqu'il y a cette réunion, fameuse réunion du sommet des gendarmes de l'Oise, on lui impute déjà 17 affaires.
Ouais.
17
ouais.
affaires.
Ouais, 17 affaires. Bon, alors, des importantes, des moins importantes, des vols de chèques, des vols de voitures, l'attaque de la poste. Mais enfin oui, 17 affaires. Donc à la limite, en plus ce sont des affaires à main armée quand même, à main armée.
Bon,
et même s'il n'y avait pas eu de victimes, 17 affaires pour un seul département, ça commence à devenir chaud quand même.
En quelques mots, comment est-ce qu'ils s'organisent pour échapper quand même à tous ces contrôles?
Mais il a toutes les informations.
C'est ça.
Il a toutes les informations. Le psych de Chantilly rayonne sur tout un arrondissement. C'est-à-dire l'arrondissement de Senlis. Mais il a tous les messages, il a tous les télégrammes des autres gendarmeries. Et donc, quand il y a des nuits, des soirées barrages d'organiser, il a tous les plans. Il a tous les plans.
Et donc, le gendarme Lamar peut surveiller le tueur Lamar.
Tout à fait.
À ce rythme-là, l'étau va se resserrer autour du tueur de l'Oise, Alain Lamar. Sa silhouette, son visage vont devenir de plus en plus précis et les indices s'accumuler. L'affaire Lamar, quand le loup est dans la bergerie. On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Alain Lamar, un gendarme engagé dans la spirale du crime. Une jeune femme de 19 ans est déjà morte à Chantilly. Le tueur de l'Oise est bien décidé à récidiver. Le 29 décembre 1978, en milieu de matinée, une jeune femme gît sur la chaussée. Elle vient d'être jetée d'une voiture, une Peugeot 504 verte qui a disparu. On la croit morte, mais André Poiré, 19 ans, est en fait grièvement blessé. Avant d'être transportée à l'hôpital, elle explique qu'un homme jeune, parfaitement rasé, vêtu correctement, l'a prise en stop, puis lui a tiré dessus après avoir déclaré « Je vais vous faire mal ». André Poiré est vivante, mais la balle a touché la colonne vertébrale. La jeune femme va rester paralysée à vie. Cette fois, les gendarmes ne veulent laisser aucune chance au tueur. Des barrages sont établis dans tout le secteur. La Peugeot 504 est aperçue par une patrouille. Elle est prise en chasse. Le véhicule s'engage dans un chemin de terre et se retrouve enlisé. La patrouille arrive trop tard et découvre le véhicule vide. Le conducteur, devenu alors l'un des hommes les plus recherchés de France, a réussi à prendre la fuite. Il s'est en fait immergé dans le marais voisin, puis a patiemment attendu le départ de ses collègues. Ces derniers vont encore le rater 3 mois plus tard alors qu'il avait volé la voiture d'un ambassadeur et était tombé en panne sur l'autoroute. Début avril, un troisième portrait robot du tueur de l'Oise est réalisé par les enquêteurs. Il s'affiche dans tous les commissariats et dans toutes les brigades. Les gendarmes l'ont sur eux et Alain Lamarre a alors tout loisir de savoir si ce dessin lui ressemble un peu. Beaucoup ou pas du tout. Un portrait qui tape dans l'œil du maréchal des logis chef, Claude Morel. Il croit connaître cet homme, mais hésite. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, il montre à son épouse Christiane le visage du suspect qui s'affiche alors dans les pages du Parisien libéré. Celle-ci n'a pas la moindre hésitation. Elle s'exclame « Mais c'est Lamarre !» Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'heure du crime, personne n'a reconnu Lamarre. Et c'est l'épouse d'un gendarme qui le reconnaît, comme vous le racontez très bien dans votre livre.
Alors c'est l'épouse d'un gendarme qui reconnaît Lamarre. Et c'est l'épouse d'un flic, l'inspecteur Daniel Neveu de la PJ de Creil, qui avant cela avait reconnu que la lettre reçue par le commissaire de Creil, puis d'autres écrits du tueur inconnu ressemblait très fort à ce que l'on faisait dans la gendarmerie à l'époque. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à faire de procès-verbaux immédiatement quand on venait sur le lieu d'un délit, ils avaient un carnet de déclaration. Ils faisaient remplir le carnet de déclaration, les gendarmes. Ils faisaient signer par le témoin. Et puis, ils rentraient à la brigade et ils faisaient un procès-verbal avec ça. Et la femme de Daniel Neveu, elle est responsable des caisses d'un supermarché. Et elle reçoit souvent des gendarmes pour des histoires de chèques sans provision, etc., etc. Et elle avait dit à son mari Daniel Neveu, c'est marrant, et c'est pour ça que Neveu a pensé à un gendarme plus qu'à un flic. La femme de Neveu lui dit, c'est marrant, mais franchement, les tournures de phrases, ça ressemble quand même à ce que nous font les gendarmes dans leur cahier, dans leur carnet de déclaration.
Ouais,
et puis là, patatrac, puis là, Morel, le patron de la brigade des recherches de Clermont, sa femme lui dit « Mais c'est Lamarre !» Et donc, du coup, il va aller voir Colombo.
Et bien sûr, et ça, on va le raconter, c'est le chapitre suivant, avec la chute du gendarme Lamarre. En quelques mots, Alain Hamon, à quoi ressemble ce portrait robot? Quelle tête il a dessus?
Ah bah, il a la tête d'un jeune homme aux cheveux courts, comme tout militaire qui se respecte.
Bien sous tout rapport.
Bien sous tout rapport, et avec des grandes oreilles.
C'est ça, c'est le détail qui tue les grandes oreilles du gendarme Lamarre. J'ai raconté très brièvement, et je l'ai abordé, l'épisode du marais dans cette affaire. Il le rate complètement là, parce que je pense que la presse est sur place. Vous êtes sur place à ce moment-là, hein, quand il y a la traque.
Énorme opération RTL. Un car relais dans la forêt de Senlis avec un mât de 15 mètres, la moto, une voiture émettrice, Jacques Labib, reporter à l'époque et copain de toujours, moi-même, etc. Ça se passe du côté de la Croix-Saint-Ouen, qui est un bled entre Verberie, où ma mère tient un bistrot et où j'ai vécu pendant des années.
C'est une histoire.
Et Compiègne, et ça se passe là. Il tombe des trics avec François Guézy, le motard de RTL. On arrive sous la flotte, on est trempé comme des soupes. Et en effet, disparition totale du type. Et alors là, on revient à ce qu'on disait au début. Rambo, il se prend pour Rambo, parce que non seulement, en effet, il s'immerge dans un point d'eau, comme vous l'avez raconté, mais comment est-ce qu'il respire? Il coupe
un
roseau.
Il coupe un roseau. Et Rimbaud, il s'immerge et il respire avec le roseau.
Incroyable.
C'est un film.
Incroyable.
Et n'empêche que, il échappe à ses collègues.
Il échappe et il va échapper aussi sur l'autoroute, hein, quand il vole cette voiture.
Alors là, sur l'autoroute, c'est extraordinaire parce que là, ce sont les CRS de l'autoroute à Senlis qui le chopent. Le type est dans une voiture volée. Et on va le laisser repartir.
On va le laisser repartir, oui. on va pas le retrouver.
Non.
Alors, et il y a aussi Alain Hamon, il va y avoir, je crois, un deuxième courrier anonyme.
Oui, tout à fait.
À ce moment-là.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il dit ce courrier? C'est du même tonneau, si je puis dire, que le premier?
Oui, c'est à peu près du même tonneau, mais ça laisse présager qu'il est en train de monter en puissance.
C'est ça.
Et là, tout le monde commence à vraiment s'affoler, d'autant que Pinault, lui, il sait qui c'est, je veux dire. Et Neveu aussi, d'ailleurs.
Et dans tous les cas de figure, ce mystérieux tueur de l'Oise, cet Alain Lamarre, il joue beaucoup avec ses collègues et avec la police, là.
Mais ça
on a l'impression qu'il s'est pris au jeu, là.
Ah, mais ça fait aussi partie de son délire. Ça fait aussi partie de son délire. C'est-à-dire que non seulement il joue avec la vie des jeunes femmes sur lesquelles il tire, et puis il joue avec la vie de ses collègues, puisqu'il a quand même failli faire sauter un gardien de la paix, et puis un gendarme, au minimum. Et puis il joue avec ses collègues au niveau des enquêtes et des interventions, et ça fait partie de son truc, c'est son délire complet.
C'est ça, il est dans une dynamique maintenant de tueur et de destruction.
Tout à fait. Ah bah oui, parce que il a même dit presque à la fin de l'histoire, il avait même dit que il était prêt à aller faire sauter la soute à munitions de la compagnie de Clermont.
Et il aurait sans doute tenu parole, selon vous ?
Moi, je suis à peu près persuadé qu'il l'aurait fait. Ouais.
Non.
Et qu'il voulait et que avant de se faire arrêter, il aurait tué le maximum de ses collègues.
Alain Lamarre va effectivement être interpellé quelques jours après la diffusion de ce portrait robot. Pour autant, jusqu'au bout, sa capture va être indécise, tant l'homme est toujours décidé à tuer. Les deux visages d'Alain Lamarre, tueur et gendarme. L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime où nous revenons ce soir sur l'affaire Alain Lamarre, gendarme et tueur. Une course meurtrière qui va bientôt s'achever et révéler un profil insoupçonné et déconcertant. Après la diffusion du troisième portrait robot, les enquêteurs, policiers et gendarmes se rapprochent d'Alain Lamarre. Mais ce sont les gendarmes qui ont cette fois de l'avance. Le maréchal des logis-chefs Morel donne le nom de Alain Lamarre au commandant de la compagnie de Clermont, Jean Pinault. Celui-ci est abasourdi, mais va aux archives pour comparer son écriture avec celle des deux lettres anonymes. Il s'agit bien du même scripteur. Le supérieur de Lamarre, Henri Cavalier, est alors mis dans la confidence. Il s'exclame « C'est pas possible, c'est mon meilleur homme ». L'emploi du temps du gendarme Lamarre est vérifié. Il est établi qu'à chaque fois qu'un délit ou un crime a été commis, il ne travaillait pas. Le dimanche 8 avril 1979, passé minuit, un message radio stipule que tous les équipages de patrouille doivent converger sur Senlis pour un cambriolage. C'est un leurre destiné à attirer Alain Lamarre de permanence cette nuit-là dans un piège. Mais le jeune gendarme flaire tout de suite la chausse-trappe. Il se méfie, il est dangereux, lourdement armé et a l'intention, en fait, de finir en beauté en tirant sur tout ce qui bouge. Quand il descend de voiture, il menace ainsi l'adjudant Cavalier, son supérieur. Celui-ci fait alors mine de ne pas le voir avant de lui donner, comme si de rien n'était, l'ordre de rejoindre les autres gendarmes. Un moment de flottement suffisant pour le ceinturer, alors que Lamarre avait plongé les deux mains dans ses poches où se trouvaient deux armes chargées. L'enquête sur le gendarme Lamarre va durer 4 ans. Même si les faits sont simples et son implication dans les délits et les crimes avérés, son état mental va poser problème. Les médecins diagnostiquent une éboïdophrénie, une sorte de schizophrénie. Alain Lamarre est déclaré irresponsable de ses actes en 1983. Il ne sera pas jugé. Il sera soigné dans un établissement public de santé mentale. Lamarre, le tueur de l'Oise, a aujourd'hui 64 ans. Alain Hamon, notre invité ce soir dans l'heure du crime avec la sortie de votre livre « Bonjour, on vient pour l'affaire », collection Jacques Pradel aux éditions JPO. Alain Hamon, jusqu'au bout, l'arrestation de Lamarre aura été compliquée, difficile et même dangereuse. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une... J'en ai pas parlé là, mais il y a une victime collatérale lors de l'arrestation.
Ça aura été la dernière victime de Lamarre.
Racontez-vous.
Collatérale en effet, mais alors pour ce qui est de la dangerosité de l'interpellation, oui, parce qu'il a tout de suite compris que c'était pour lui le faux message et que c'était pour l'interpeller. Et donc, non seulement il avait un pistolet dans sa poche, mais dans la voiture qui l'emmenait jusqu'à la compagnie de Senlis rejoindre tous ses collègues, c'est lui qui s'était chargé de prendre le pistolet mitrailleur de dotation. Et donc, il avait aussi un pistolet mitrailleur. Et donc, Cavalier, son adjudant-chef, a quand même pris un maximum de précautions. Quant à la victime collatérale, eh ben oui, jusqu'au bout, la hiérarchie de la gendarmerie à Senlis a voulu nous planquer Lamarre. C'est-à-dire qu'on était tous en bas de son immeuble quand ils ont fait les perquisitions. Perquisitions complètement folles, complètement folles. Il avait une tente plantée au milieu de son séjour. Et il vivait chez lui sous la tente.
Non.
Oui, il vivait chez lui sous la tente. Quand, pour préparer ses coups, etc., etc. Ben parce que, quand il préparait ses coups, il allait dans la Somme, et là aussi, en pleine nature, il jouait les Rambo, il jouait les militaires en exercice, et il était sous la tente. Mais il pouvait pas toujours le faire. Donc il avait fait ça en double. Et le double, il l'avait chez lui, dans une des pièces chez lui. Il avait planté une tente et il y avait toutes les préparations, des archives, etc., etc. Mais il y avait aussi des ordures, des boîtes de conserve. Enfin, c'était
donc, on sent bien la détermination.
Et donc pour vous finir sur la victime collatérale,
voilà, c'est ça.
Ils ont voulu nous le planquer. Ils l'ont descendu de chez lui. Ils ont essayé de l'emmener à Senlis. Et à un moment donné, il roulait comme des fous. La voiture de la gendarmerie qui emmenait Lamarre, il roulait comme des dingues. Et en face, il y a un ado sur une mobilette avec un copain à lui. Ils ont été obligés de se serrer à cause de la voiture de gendarmerie et patatras qu'ils sont allés s'encastrer dans une voiture de l'un de nos collègues. Et nous, on était avec la voiture de RTL, on était juste derrière la 504 de la gendarmerie. Et on a voulu aller à leur hauteur pour leur dire prévenez les secours, prévenez les secours. Ils ont fait comme si on était des photographes qui voulaient la photo de Lamarre dans la voiture. Pas du tout. Et ils ont essayé de nous semer. Ils n'ont pas appelé les secours, etc. Le gosse est mort.
Et le convoi a continué.
Voilà.
Alors Alain Lamarre, là, évidemment, il est arrêté, il est sous les verrous à ce moment-là. Est-ce qu'on sait assez rapidement que ça va pas très bien dans sa tête ? Qu'est-ce qu'on dit à l'époque ?
Je crois pouvoir dire, c'est pour ça que je viens de le soulever d'ailleurs, je crois pouvoir dire qu'ils ont commencé quand même à se poser des questions sur son état mental aux perquisitions. Quand chez lui, ils ont...
décor incroyable.
Ouais. Là, ils ont dit, il va pas bien. Bon, alors cela dit, par la suite, naturellement, comme dans toute instruction, il y a eu des experts qui ont été nommés. Très très bon boulot d'ailleurs de la juge d'instruction qui a pris le dossier en main à Senlis, au tribunal de Senlis. Ce qui s'est passé, c'est que on ne peut pas retirer de la tête des gens, y compris de ma tête à moi d'ailleurs, que c'était mieux pour la gendarmerie nationale d'écarter Lamarre d'un éventuel procès en cour d'assises. Ça c'est le premier truc.
Évidemment, parce que ça devenait gênant.
Ça devenait très gênant. Ça l'a été d'ailleurs. Ça l'a été,
oui,
disons-le tout net.
Disons-le, et il faut en dire un mot quand même, ça a été une onde de choc terrible dans la gendarmerie. Hein.
Écoutez,
c'est difficile à supporter, surtout pour les militaires.
La nuit de son arrestation, son patron au psych de Chantilly, Cavalier, adjudant-chef, a pleuré. Il pleurait, Lamarre était entravé sur une chaise, il pleurait, et il y avait des gendarmes dans toute la compagnie de Senlis, autour, dans les bureaux, qui chialaient. Bon, mais c'est vrai aussi que il a eu l'article 64, puisque c'était ça à l'époque dans le code de procédure pénale, c'est-à-dire dément au moment des faits,
C'est vrai qu'on peut pas dire le contraire. Il était pas, même s'il était très malin pour échapper aux recherches, mais quand même, il n'était pas net dans sa tête.
Schizophrénie, total, dédoublement total de la personnalité.
Totalement.
Est-ce qu'on, Alain Armand, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu?
Oui, bien sûr.
Alain Lamarre.
Oui, bien sûr. Il sort régulièrement. Il sort régulièrement de son établissement et il retourne chez lui dans le nord de la France voir sa famille. Mais il a aussi été question qu'il sort définitivement. Apparemment, il est quand même très très suivi. Très très suivi.
Il est très très suivi.
Ouais, ouais.
Le gendarme Alain Lamarre. Merci beaucoup Alain Armand d'avoir été l'invité de l'heure du crime ce soir sur RTL avec l'histoire du gendarme Lamarre et puis bien d'autres histoires que vous racontez dans votre livre Fourniret, Grégory, le baron Empin. Votre livre s'appelle, et je le rappelle, Bonjour, on vient pour la faire, mes 50 ans de faits divers dans la collection Jacques Pradel chez JPO. Édition. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir encore cette heure du crime.